dans les placards de Félix.
Lola, c'est pour toi que je me lave sous les bras. Y'a qu'un truc que je ferais pas, c'est l'aftershave. Et ça même pour toi, Carla, ça lui plaît pas quand je lui parle pas. Elle me demande chaque fois, dis-moi qu'il n'y a que moi. Elga est une diva, survivant d'un para. Pour elle, la vie sans soi, sans tralala, n'est plus qu'un salala. C'est Cinderella que je voudrais dans mes bras. Danseuse de Java, douée pour le Kama Sutra.
Bien, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes avec Félix Potin pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai une invitée.
Au bord de la Volga, j'ai rencontré Olga. Mais Olga son dada, c'était pas moi, c'était la vodka. Il m'a, oh je ne sais quoi, que les autres n'ont pas. Mais celle-là est déjà au cinéma d'un autre que moi. Mais celle-là est déjà au cinéma d'un autre que moi.
Aujourd'hui, je reçois une personne à particules, puisqu'elle s'appelle Marie-Lou de la radio. Bonjour Marie-Lou.
Bonjour Félix.
Et Marie-Lou, tu as accepté de venir te prêter à notre jeu qui est de nous lire des textes de ton choix, intercalés de musique de ton choix.
Tout à fait, c'était un rude travail. Je me suis au moins reprise en trois fois avant de me décider pour un livre parmi la multitude de choses
et
qui
oui.
ont pu alimenter mes lectures depuis plusieurs années et qui sont extrêmement, pour moi, porteuses en tout cas, et qui, encore aujourd'hui, peuvent amener à une manière de penser qui évolue tous les jours.
Et juste avant de te lancer dans ta première lecture, ouais. Tu veux nous en dire deux mots de cette façon dont tu as fait le choix ?
Alors, je vais dire que j'ai sûrement... Alors, peut-être que la première chose, c'est que c'est un tout petit livre qui doit peser 100 grammes, qui fait 60 pages environ, et qui a eu le mérite de me surprendre d'une manière absolument inattendue. Un jour où j'étais à Nantes, dans une librairie, dans un lieu qui s'appelle le lieu unique, il y a une ancienne fabrique des petits lus.
Oui, donc à Nantes, Loire-Atlantique.
avec effectivement une reconversion de tout ce bâtiment qui est un bâtiment industriel en lieu culturel et avec une salle de spectacle, d'expo, etc. Mais aussi une petite librairie fantastique au rez-de-chaussée qui promeut des bouquins qu'on ne voit nulle part ailleurs. Enfin, j'exagère. En tout cas, ce petit bouquin, il était sur le comptoir. J'étais en train de payer un autre livre et je suis tombée sur ça. Jean-François Billetter, Esquisse. Ouais, bon, c'est rigolo, c'est tout blanc, c'est tout... Je me dis, oh, ça doit être épuré, esquisse en plus. Et avec quand même, sur le bandeau du livre, reprendre et approfondir les lumières. Par curiosité, parce que c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça, au hasard. Juste le format, le poids du livre, la manière dont c'est présenté en quelques lignes, en première ou en quatrième de couverture. Voilà, je me suis dit, celui-ci, il me le fout, quoi. J'ai pas été déçue parce que j'ai rencontré Jean-François Billetter par le biais de ce livre.
D'accord.
Et donc des autres, je me suis intéressée aux autres petits bouquins qu'il écrit parce qu'on a la chance qu'il écrive que des petits bouquins et qui sont tous sur le même ordre d'idées. Alors, on peut dévoiler que c'est de la philosophie quand même, mais qui est de la philosophie politique, économique, sociale et humaniste. Alors, on parle des Lumières, évidemment. Voilà, qui a une actualité permanente, je dirais. Voilà, c'est indémodable un bouquin comme ça. Ce doit être la troisième fois que je le relis.
Peut-être nous donner envie et d'aller à Nantes et d'acheter ce livre.
Je suppose qu'il existe ailleurs quand même qu'à Nantes. C'est une petite une maison d'édition qui s'appelle Alia. A-L-L-I-A.
Est-ce que tu allumes les lumières?
Allez, j'essaye.
On t'écoute.
Je vais commencer par vous lire la préface de ce livre qui est donc issue de la première édition de 2016. Esquisse 50, puisqu'il y a en fait 50 petits chapitres dans ce livre. J'ai essayé de montrer de quel ordre est la crise dans laquelle nous sommes. J'ai cru pouvoir montrer que sa cause lointaine est dans l'invention du langage. Je crois avoir montré qu'aujourd'hui, elle est sa cause première en chacun de nous, du fait que nous sommes des êtres de langage. Mais parce que le langage nous donne le pouvoir de dire, nous avons en nous la cause du mal et son remède. Tu as peut-être été dérouté, cher lecteur, de me voir embrasser ainsi dans ces quelques esquisses la tourmente qui risque de nous emporter et l'étude rigoureuse du sujet humain. Je l'ai fait pour tenter de tenir sous un même regard notre situation dramatique et ce que nous sommes, en plaçant au centre le sujet que chacun constitue pour lui-même et qui est le lieu où il peut agir, ou laisser naître l'action. Je considère que la clé est dans la connaissance philosophique du sujet, c'est-à-dire dans la connaissance que tout sujet peut acquérir de sa propre activité, par son observation et son perfectionnement. Je considère qu'il est permis de concevoir une civilisation fondée sur une pédagogie qui, dès les premiers pas et dans toutes ses étapes, aurait pour fin cette civilisation même et pour contenu cette connaissance du sujet par lui-même. Ces idées ont-elles la moindre chance d'avoir un effet? J'en doute, mais je ne désespère pas tout à fait. Et c'est pourquoi je prends la peine de les publier. Si elles n'en ont pas, les quelques personnes qui auront pensé comme moi connaîtront au moins la satisfaction d'avoir compris ou d'avoir cru comprendre avant la fin par où l'aventure humaine a échoué. Adanda, le travail de la pensée est solitaire, mais les idées auxquelles il mène doivent ensuite se communiquer. Elles ont peu de valeur si elles restent le bien d'un seul. L'esquisse m'a semblé une bonne forme, propice à ce passage nécessaire, par sa brièveté et son inachèvement.
Très intéressant, ça donne envie, hein ?
Bon, voilà, ça résume tout à fait l'esprit, en tout cas, du petit bouquin.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait que...
Alors, première esquisse. On fait une esquisse pour saisir une idée, une chose vue. On la refait parfois pour mieux concevoir l'idée ou mieux voir la chose. Ces esquisses, je les ai retravaillées, mais j'en ai conservé la forme. Je m'en sers pour tenter de résumer ce que j'ai appris depuis trois quarts de siècle et pour ébaucher des conclusions. Je laisse de côté d'infinies discussions sur ce que je dois à d'autres auteurs présents et passés ou sur ce qui me sépare d'eux. Cette liberté est un autre avantage de l'esquisse. Première esquisse. Une conjonction de facteurs extraordinaires et uniques a rendu possible la naissance de la vie sur la planète Terre. Cette vie s'est développée. À la longue, elle a produit les animaux, dont notre espèce, adaptable et inventive entre toutes, qui s'est répandue un peu partout. À partir d'un certain moment, cette espèce a commencé à se donner des organisations complexes qui sont devenues de plus en plus puissantes, les États. Le phénomène est tout récent. Il remonte à 5000 ans dans ses manifestations les plus anciennes. À peine 200 générations se sont succédées depuis lors. Il y a environ 2 siècles, une nouveauté est apparue. Les possédants d'alors ont créé par la violence une classe de dépossédés, contraints de leur vendre leur travail contre un salaire au moyen duquel ils devaient ensuite acheter leurs moyens de subsistance à des conditions qui ne dépendaient plus d'eux, le salariat. Cette révolution sociale, qui privait une grande partie de la population de son autonomie, a été rendue possible par l'emploi des machines et une nouvelle division du travail par la révolution industrielle. Cette double révolution est née en Angleterre, s'est étendue à l'Europe puis au monde. En l'espace de quelques générations, elle a créé la situation dans laquelle nous sommes. Le travail imposé aux peuples de l'Europe et des autres continents a rendu possible une exploitation accélérée des ressources naturelles du monde entier au profit de l'Europe, puis des États-Unis et d'autres puissances, dont maintenant la Chine, et au profit des détenteurs de capitaux au sein de ces puissances. Les conséquences sont, premièrement, une inégalité démesurée entre pays riches et pays pauvres. Deuxièmement, une inégalité démesurée au sein des pays riches. Troisièmement, une surproduction industrielle aberrante, cause d'un gaspillage insensé. Quatrièmement, l'épuisement des ressources naturelles, cause de guerres de toutes sortes. Et cinquièmement, le dérèglement de la nature qui menace les conditions de vie de l'espèce. Les premières manifestations de la catastrophe se multiplient. Tout est allé très vite et va plus vite encore.
C'est pas très
bien. Voilà, c'est l'état c'est, des c'est lieux. Pas, voilà. c'est ce sur quoi il veut ensuite réfléchir et travailler pour trouver évidemment des esquisses de solutions.
Le ton est intéressant. Pour l'instant, c'est ce qui me vient. Et pédagogique est assez doux, en fait, finalement. Il fait passer un message d'une dureté incroyable, d'une violence incroyable, mais il le fait passer avec gentillesse.
Voilà.
C'est intéressant.
C'est résumé, voilà, en 30 lignes, tu as le résumé de quelque chose qui a totalement modifié notre manière de vivre. Et effectivement, ce n'est pas vieux. En fait, c'est, hein, depuis l'invention du salariat, ça fait quand c'est même ça. Très peu sur l'échelle du temps notre, des sociétés
une
humaines.
Une forme d'esclavagisme moderne. Quoi.
Ouais, rapide, en tout cas. C'est cette idée qui était vraiment, je trouve, intéressante. Esquisse numéro 2. Partout dans le monde, des associations créent d'autres façons de produire et des rapports sociaux nouveaux, mais elles le font en ordre dispersé. D'autres agissent à une plus grande échelle pour tenter de remédier aux effets les plus destructeurs du système, mais échouent faute de s'en prendre au système lui-même. Pour sortir de la confusion et de l'impuissance présente, deux choses sont nécessaires. Nous entendre sur la cause de la crise et déterminer ce que nous voulons. Comme aucun retour en arrière n'est possible, ce sera quelque chose de nouveau. Ce sera notamment l'abolition du salariat. Cette abolition est possible parce que les techniques de production permettent désormais de produire en une fraction du temps disponible tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre. Son maintien nous contraint à produire au contraire une quantité énorme d'objets inutiles qui ne peuvent être vendus qu'au prix d'une publicité omniprésente, d'une concurrence féroce, d'une destruction de plus en plus rapide des produits et donc d'un gaspillage généralisé. Son maintien contraint en outre chacun à trouver à tout prix un emploi alors que le progrès des techniques réduit continuellement leur nombre ou à subir la disgrâce du chômage. Tel est le moment présent de l'histoire. Le capitalisme a créé en très peu de temps les conditions de son propre dépassement, mais nous ne franchissons pas le pas parce que nous ne concevons pas la liberté dont nous pourrions faire la conquête. L'empêchement est double. Nous ne voyons pas que l'abolition du salariat ne serait pas la fin du travail, mais celle du travail contraint. Et nous ne voulons pas de cette liberté, parce que nous ne savons pas ce que nous en ferions. Est-ce à dire que notre servitude est volontaire? Non, elle résulte d'une tâche aveugle. Il nous manque l'idée positive de la liberté que nous pourrions conquérir si nous le voulions. Nous allons vers l'avenir à reculons, contre notre gré. L'idée positive qui nous manque, le passé ne la fournit pas. Les réactions que le capitalisme a provoquées dès ses débuts, les luttes qui ont été menées contre lui ou contre ses effets, l'ont été au nom d'une conception négative de la liberté. L'homme supposé né libre retrouverait sa liberté native quand il briserait ses chaînes ou en réformant progressivement un système injuste. Cette idée de la liberté ne suffit pas à déterminer ce qui doit venir après. Marx n'a laissé aucune indication sur la société qui devait naître de l'émancipation des travailleurs. Leur libération devait engendrer d'elle-même une société meilleure. Cette lacune centrale de sa pensée a eu pour conséquence que ni le mouvement ouvrier ni les révolutions qui se sont réclamées de lui n'ont aboli le système capitaliste. Ils n'ont fait qu'en produire des variantes étatiques. Ils ne pouvaient pas en aller autrement, car, comme le dit Madame de Staël dans ses considérations sur la Révolution française, il n'y a de détruit que ce qui est remplacé. Le problème reste entier aujourd'hui. Il est vain d'affirmer que l'homme est né libre ou que c'est sa vocation de devenir un être libre tant que l'on ne possède pas une idée positive de la liberté.
Alors là, ça c'est, cette conclusion était géniale.
C'est génial.
Oui, et l'abolition du salariat, pourtant, on tourne autour avec ces histoires de salaire unique. Effectivement, le capitalisme enrichi de pensées libérales débridées, totalement débridées, hein, parce que du libéralisme, il y en a absolument dans tous les États et toute forme d'État. On continue de creuser ce trou-là. En fait, finalement, ce qu'il dit, c'est que le capitalisme creuse sa propre tombe. C'est un système qui ne peut aller que là.
Oui, c'est vraiment l'échec assuré.
C'est ça.
C'est clair que dans tout son propos, il a la toile de fond, c'est ça. C'est bien résumé dans ces deux premières esquisses où on comprend bien qu'il se situe à un autre niveau. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au-delà de nos engagements respectifs, personnel, que ce soit dans des associations qu'on aille, qu'on participe à des mouvements, à des manifestations, etc., il se passe quand même autre chose. C'est qu'on combat quelque chose, on comprend qu'il y a quelque chose qui va mal, mais on a beaucoup de mal à avoir l'imaginaire pour nous projeter vers mais qu'est-ce qu'on veut en réalité, quoi, sur le fond. Enfin, quelle liberté positive on veut, en fait. Je n'ai pas de réponse, hein, évidemment, que chacun a la sienne. En plus, il le démontre très, très bien dans la suite. Il donne quand même quelques outils. Hein, qu'on ne se sorte pas quand même du bouquin complètement...
suicidaire.
Suicidaire, voilà.
Ce capitalisme-là, c'est aussi la mort de cette liberté de penser.
Ouais.
De cette liberté de créativité.
Ouais.
Et de cette liberté d'essayer des choses, en fait.
Et il va démontrer, enfin, je ne sais pas si, parce que le bouquin est très riche en fait, en contenu, il est petit, mais il est quand même effectivement très riche. Il met en évidence toute l'importance du langage, en fait. C'est ce que tu viens de supposer, de dire. En réalité, ça passe énormément par ça. On a énormément de choses à reprendre à l'origine. Alors, il reprend bien sûr l'origine hein, du langage, du mot, enfin du son même, du mot, de la phrase et de ce qu'il y a derrière pour pouvoir faire passer effectivement des messages, puisque le principe même d'une liberté positive, c'est aussi de pouvoir l'exprimer. Et que tant qu'on n'a pas les mots qu'on va pouvoir calquer et utiliser pour décrire notre imaginaire, ça, on ne passe pas à l'action, en fait. Enfin, il y a quelque chose d'assez... un fil, en fait, hein, qui est assez fluide dans la manière dont on le raconte. Alors moi, évidemment, ça ne sera pas aussi fluide.
Mais... D'où l'utilité d'abêtir les masses, en fait.
Complètement, complètement. Et que ça passe effectivement aussi par le langage, ouais, par le retrait ou bien l'imposition de certains mots qu'on met, enfin surtout en ce moment, je crois qu'on voit beaucoup d'effets comme ça, des mots qui n'existaient pas ou qui sont restreints à un certain type de notions. Et il y a certaines notions qui ont carrément disparu, quoi. Un truc, à un moment, je lisais des choses sur le progrès, par exemple, puisque le capitalisme fait aussi beaucoup d'avancées médiatiques en disant « mais c'est un progrès ». Mais en réalité, bon, il y a des personnes qui avaient quand même beaucoup réfléchi là-dessus et qui disent « mais un progrès, c'est toujours accompagné d'un regret de quelque chose ».
Bien sûr.
Regret, en fait. Et le mot « regret » dans le sens, l'inverse du progrès, hein, a disparu de la circulation. C'est un mot qu'on n'emploie plus, alors qu'en réalité, il me semble qu'il s'impose. C'est qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, ah oui, ça a un coût, ce qu'on appelle le coût du progrès.
C'est
pour moi, c'est le regret, en fait.
Oui.
Mais c'est étonnant comme ce mot ne revient pas.
C'est toute une forme de pensée qui disparaît avec
voilà,
ça.
Tout à fait. Parce qu'on a l'impression que le nouveau est toujours mieux que ce qui existait avant. Que le nouveau, c'est du progrès. La modernité, enfin tous ces mots, empêchent de réfléchir au réel impact de ce progrès. Tous les progrès ne sont pas évidemment... on ne peut pas dire qu'ils sont tous négatifs. En tout cas, l'intérêt, c'est aussi de se dire que tout n'est pas progrès, quoi.
Parce que si je t'entends bien, dans ce terme de regret, ce que tu y mets, c'est l'idée de, pour pouvoir avancer, il faut faire un léger pas en arrière pour pouvoir avoir une vue d'ensemble plus large, c'est ça ?
Oui.
Et alors que le coût, lui, c'est ce qui nous ampute.
Ouais. C'est de ne pas prendre que le résultat, mais de prendre tout ce qui a été en amont nécessaire pour arriver à ce résultat-là. Un exemple archi simple qui est tellement courant qu'on ne s'en rend même plus compte, mais par exemple, c'est l'invention des smartphones. Mm-hmm. Évidemment que le smartphone, c'est un progrès énorme en termes techniques, en termes de communication, etc. Mais si on regarde de près tout ce que ça coûte en termes environnementaux, en termes de travail forcé d'enfants, de société, de vallées entières ou à l'autre bout du monde, enfin dans des pays en tout cas qui ne sont pas sous nos yeux, c'est ça qui est important. On ne peut voir que la partie positive et ne jamais s'interroger sur à quel prix on a tous les jours un smartphone dans la main.
لأجلك لأجلك يا رب صمتي لأجلك لأجلك يا رب
لي أطلب آخر شي يريد يا رب
numéro 3. Pour concevoir cette idée, replaçons-nous à nouveau dans l'histoire. Repartons du mouvement des Lumières. Il a été une conquête de l'autonomie individuelle. Ce n'était plus aux autorités religieuses et politiques de prescrire à chacun ce qu'il devait faire, mais à chacun de se déterminer selon sa conscience et selon la raison, en s'accordant avec les autres par la délibération. Ce mouvement a été philosophique parce qu'il a étudié notre nature en s'affranchissant autant qu'il lui a été possible des préjugés traditionnels. Il a établi que nos idées ne nous sont pas imposées par une révélation divine ou parce qu'elles seraient innées, mais que nous les élaborons à partir de notre expérience. C'est Kant qui a mené à son terme cette révolution copernicienne, il l'appelait ainsi. Pour lui comme pour les autres penseurs des Lumières, il allait de soi que leur découverte avait une portée universelle. Les facultés humaines qu'ils mettaient en évidence étaient le propre de tous les hommes. Ce progrès a été combattu avec la dernière énergie, d'abord par les pouvoirs dont ils mettaient en cause les prétentions traditionnelles, puis par des penseurs qui ont affirmé que l'individu est, au contraire, nécessairement et entièrement déterminé par son appartenance à une communauté particulière, issue d'une histoire particulière, et ne peut trouver son bonheur qu'en obéissant au destin de cette communauté. Le rejet de l'universalisme s'est étendu jusqu'à la pensée. Chaque peuple avait la sienne exprimée dans sa langue à lui. Les tenants des Lumières et des Anti-Lumières se sont livrés depuis lors et se livrent aujourd'hui encore une guerre sans merci. Ce conflit est l'une des clés de l'histoire des deux derniers siècles et de l'histoire en train de se faire. Esquisse 4. Nous y verrions plus clair si nous avions affaire dans cette guerre à deux camps bien définis, mais tel n'est pas le cas, car l'esprit des Lumières a été trahi. Son idée maîtresse était la raison. Champfort en faisait l'éloge en ces termes. Peu d'hommes se permettent un usage vigoureux et intrépide de leur raison et osent l'appliquer avec force à tous les objets. Le temps est venu où il faut l'appliquer à tous les objets de la morale, de la politique et de la société, aux rois, aux ministres, aux grands, aux philosophes, aux principes des sciences, des beaux-arts, etc., sans quoi on restera dans la médiocrité. Cette raison a été doublement trahie. Le vocabulaire français permet de dire en peu de mots ce qui s'est passé. Elle a été réduite d'une part au raisonnable, c'est-à-dire au respect de la norme, et d'autre part au rationnel, autrement dit au raisonnement systématique et rigoureux visant l'efficacité. Cette seconde idée de la raison est devenue la justification abstraite de l'organisation rationnelle du travail, de l'économie et de proche en proche de toute l'activité humaine. Cette rationalité a été le moteur du développement des sciences exactes et de la technique, mais aussi des nouvelles formes de déshumanisation et de violence qui ont marqué l'époque contemporaine, du travail à la chaîne au camp d'extermination. Tout ce qui était rationnel a été déclaré bon par les nouveaux maîtres. Cette double trahison de la raison explique deux perversions qui ont empoisonné l'histoire des deux derniers siècles et empoisonnent le monde aujourd'hui. D'une part, les adversaires des Lumières ont eu beau jeu de dénoncer dans le monde industriel et capitaliste le produit naturel du mouvement des Lumières et de discréditer par là les Lumières elles-mêmes. Tel est depuis deux siècles le ressort de la pensée réactionnaire. L'autre perversion est le fait des détenteurs du grand capital, qui pouvaient plus difficilement se déclarer ennemis des Lumières, mais avaient intérêt à ce que personne ne fît contre eux un usage énergique de la raison. Ils ont d'abord inventé la religion du progrès, qui a fait croire que leur action était un mal nécessaire à l'avènement d'un bien futur. Ce fut aussi l'utopie communiste. Ils ont d'autre part conclu des alliances avouées ou inavouées avec les forces réactionnaires, parfois avec les pires. Ce fut notamment le national-socialisme. Ces alliances avaient pour eux de nombreux avantages. Elles les protégeaient en poussant les esprits dans la voie du repli communautaire et du retour à un passé fantasmé. Elles opposaient entre elles les communautés nationales, ethniques, religieuses, ce qui leur donnait le moyen de les manipuler et de profiter des guerres qui en résultaient. L'histoire contemporaine est le catalogue des maux qu'ont engendré ces alliances entre les détenteurs du grand capital et les forces réactionnaires et par leur guerre commune contre les Lumières. Ce catalogue se prête à des mises à jour quotidiennes, tant cette guerre et ses alliances continuent d'enfanter dans le monde des maux toujours nouveaux et toujours semblables. Mais la crise menace maintenant d'emporter tous ces acteurs aveugles et les témoins lucides avec eux. Pour mettre fin à cette collusion et sortir de cette confusion de plus en plus dangereuse, il faut revenir au mouvement des Lumières et le reprendre pour l'approfondir.
On est complètement dedans, là.
C'est totalement, c'est impressionnant. Hein.
Est-ce que ça peut être pire? Je ne sais pas. Quand tu vois les dernières nouvelles des guerres, les interventions de Trump, de Poutine, même de notre cher président et nous, où effectivement, tu as encore des gens qui pensent qu'on est sous un régime de gauche, ce qui est assez extraordinaire, parce que là, on n'est même plus dans l'utopie. On est vraiment dans le fond du puits, là, en fait. C'est ce qu'il est en train de nous dire.
Ce qui est remarquable, je trouve, hein, dans ces esquisses, c'est qu'on retrouve des modalités de fonctionnement, des mises en place de systèmes d'organisation capitaliste, certes, mais au niveau de la société intrinsèquement, quoi, dans chaque pays, en fait. On retrouve la même chose, finalement. C'est un peu quelque chose d'universel, ce qui est dit là, du moment que c'est sous le joug capitaliste, mais pas seulement, parce qu'on se rend compte que, finalement, que ça soit Poutine, enfin, pour reprendre, ou la Chine, c'est pareil, finalement. On retrouve le même mode de fonctionnement.
Exactement le même mode. Ouais. Ce qui est assez horrible, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, on y était déjà au fond du puits.
Je pense, c'est vrai.
Et que l'humanité est remontée un chouïa pour creuser encore plus le fond du puits. C'est étonnant, ce manque absolu de réflexion. C'est comme si... c'est donner à manger à ton peuple et il se tiendra tranquille, hein, un truc dans le genre, quoi. Mm-hmm. Donc tu lui donnes en plus de la merde à manger, comme ça, ça endort bien son cerveau. C'est effrayant d'exactitude.
Voilà, c'est le recul là, qu'il prend en écrivant ça, nous dresse un portrait qu'on n'a pas l'habitude de voir avec autant, on va dire, de recul. Voilà, on est englué dans un quotidien, pas tout à fait par hasard, certainement non plus, puisqu'on verra que c'est très utile que ce quotidien-là soit englué. Genre.
Il y a encore peut-être une quarantaine d'années, les choses étaient un peu, on va dire, un petit peu secrètes, ou c'était encore un peu secret, c'était encore un peu voilà, des ficelles qui se tiraient sous la table. Maintenant, tout est débridé, exagéré, au grand jour, ils n'ont plus honte de rien.
Oui. Alors, ce qu'il propose là, dans les esquisses suivantes, c'est quand même un petit peu des...
Un petit peu de solution.
Un petit peu des bouts, enfin voilà, des bouts de ficelle qu'on pourrait peut-être tirer.
D'accord.
À chacun un autre niveau, en tout cas, pour en tout cas, se remettre un peu les idées au clair, voilà, de sortir un petit peu de...
Oui, parce que là, quand tu entends ça, il est évident que la pensée commune, elle ne peut naître qu'à partir du moment où chaque individu se remet en question dans son propre système de pensée.
Ouais, mais remet en cause effectivement toute sa manière de voir les choses et de faire aussi, dans l'action aussi bien que dans la pensée, en essayant de se débarrasser de toute cette gange dans laquelle on est sans conscience, en fait, de moins... Enfin, en tout cas, pas quotidiennement en conscience, mais on est complètement, effectivement, noyé là-dedans.
Mmh. Moi, je veux bien...
Expliquer, tu veux la suite,
hein. un petit bout de solution, je veux bien.
Bon, c'est pas tout à fait optimiste, mais quand même, il y a des choses. Mais je trouve que déjà, rien que de se mettre d'accord sur un constat, c'était super intéressant, quoi. Rien que ça, en fait. Hein. Esquisse numéro 5. Repartons du mouvement des Lumières. Kant l'a résumé par la formule latine « sapere aude », ce qui veut dire « ose savoir ». Cesse de te laisser traiter comme un enfant. Libère-toi des tutelles qu'on t'impose. Aie l'audace ou la simplicité de penser par toi-même. Lichtenberg, son contemporain, a donné une autre définition. Les Lumières consiste à avoir dans tous les états de la société des notions justes de nos besoins essentiels. Cette seconde définition est particulièrement utile aujourd'hui parce que la question de nos véritables besoins est devenue centrale. C'est une question à laquelle on ne peut répondre qu'en comprenant ce que nous sommes. Elle est une question philosophique. Le mouvement des Lumières a été philosophique parce qu'il n'a pas seulement rassemblé de nouvelles connaissances sur l'espèce humaine, sur les sociétés, sur leurs mœurs et leurs institutions, sur les arts et les techniques, il a voulu progresser dans la connaissance du sujet en tant que sujet, ce qui est une connaissance d'un autre genre, car celui qui cherche cette connaissance-là est sujet lui-même et ne peut pleinement étudier le sujet que sur lui-même. Ce qui rend cette étude difficile, c'est qu'elle nous touche de trop près. Lichtenberg l'a noté, l'être que nous recevons le plus pur des mains de la nature et qu'elle place en même temps au plus près de nous, c'est nous-mêmes et pourtant là, combien de difficultés et de complications. On dirait presque que nous devrions nous contenter d'agir sans faire de nous-mêmes un sujet d'observation. Si nous le voulons cependant, nous pouvons observer du dedans notre propre activité. Nous pouvons nous y exercer. elle comporte suffisamment de jeux, de décalages, de régimes variés, de discontinuités pour donner prise. Le tout est d'être curieux, attentif et patient, et d'avoir aussi un certain goût de l'expérimentation. Bon, déjà là, tu vois, il commence un petit peu à dire qu'on peut, par soi-même en tout cas, repérer comment on fonctionne, comment on agit, comment il va donner des éléments sur comment on fait. Hein. Il peut y avoir effectivement des découvertes qu'on n'aurait pas du tout imaginées possibles, juste en s'observant, en fait, en observant des tas de choses qui sont apportées vraiment de tout le monde.
Ce qu'il propose, c'est d'acquérir cette capacité par le partage.
Alors, en tout cas, il faut à un moment donné que ça prenne, bien sûr, cette dimension-là de partage. D'accord. Ça peut pas être que personnel. Mais il faut d'abord quand même repérer des choses par sa propre auto-observation, on va dire, et qui vont effectivement forcément être en lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Mais la première chose, c'est quand même de repérer comment on est, nous, dans le quotidien, en fait. Facile, en fait. Enfin, ce moment d'observation, si tu veux, je vais te lire comment il estime qu'il faut être observateur, en fait. Esquisse numéro 7. Spinoza était un observateur subtil et rigoureux, mais n'a pas parlé de l'observation. Il n'en a pas éprouvé le besoin parce que ce n'était pas ce point de départ qui lui importait, mais les thèses auxquelles il aboutissait. Dès lors que nous choisissons de procéder par induction, par contre, nous devons préciser ce qu'est l'observation du sujet par lui-même, ce qui la rend possible et quel pouvoir elle nous donne. Trois points sont importants. Il s'agit de l'observation de ce qui se passe, autrement dit de notre activité. Il s'agit de l'observer par moment, certes, mais dans toutes nos occupations et dans les circonstances les plus diverses de la vie. Cette observation est un jeu auquel on prend goût. Avec le temps, l'attention s'affine. Elle nous conduit à nous percevoir nous-mêmes comme tout entier fait d'activité. Deuxième point, il est un moyen simple d'augmenter puissamment cette attention. C'est l'arrêt. Donc, il va être question dans l'esquisse suivante. La pratique de l'arrêt est indispensable à qui veut aller au-delà de l'observation la plus superficielle. Troisième point, l'observation de l'activité que nous déployons quand nous usons du langage revêt une importance particulière. D'abord parce que cette activité joue un rôle central dans notre existence. Ensuite, parce que le langage constitue en même temps le plus grand obstacle à l'observation de notre activité. C'est pour ces deux raisons qu'il sera longuement question du langage plus loin. Il faut ajouter l'observation de l'activité des autres que nous comprenons par analogie avec la nôtre et qui nous renseigne sur la nôtre en retour. Ça donne une idée, mais alors voilà. Juste sur l'arrêt, je te lis des petits passages de la suite, une partie de l'esquisse suite. Donc, observons ceci par exemple. Quand je cherche un mot, je m'arrête et je me mets dans un état de vacances. Je cesse de me mouvoir, mon visage se vide de toute expression, mon regard s'arrête. Quand le mot se présente, je reviens à moi et je reprends la conversation. Dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, je suis passée d'un régime de l'activité dans un autre. J'y suis passée en pratiquant spontanément l'arrêt. Cet arrêt, je peux le cultiver. Je cesse d'agir, même en pensée. Je cesse de désirer, de redouter. Oublier les désirs et les craintes, les projets, les calculs. Je ne bouge plus, le repos me gagne, je me laisse sombrer. En m'exerçant un peu, je débraye de mieux en mieux et je me maintiens de plus en plus longtemps dans le vide que cela crée. Cela devient un jeu, un plaisir, un besoin. Je découvre peu à peu que ce vide est fécond. Il arrive que s'y forme une intuition, une idée, une association d'idées. Ainsi naît la pensée. Il arrive qu'y surgisse un spectacle qui s'apparente au rêve et qui, sous l'effet de l'attention que je lui porte, se développe et prend de l'ampleur, voire parfois une force extraordinaire. Telle est la nature des visions qu'ont les visionnaires. Telle est, plus simplement, l'imagination que nous possédons tous à des degrés divers. Je puis me contenter de cette sorte de rien. Le monde ne cesse pas d'exister, mais s'allège et s'éloigne. Je puis m'abandonner à la rêverie ou me souvenir qu'un monde m'environne et laisser parvenir jusqu'à moi certaines impressions auditives, visuelles ou autres, et les recombiner à ma guise. Je puis aussi laisser le calme s'approfondir et s'étendre jusqu'à devenir la seule réalité perçue. Mon activité devient alors conscience pure, sans objet. Elle est de l'énergie diffuse, sensible à elle-même, doucement lumineuse. Le monde subsiste, mais à la périphérie. Bon, il parle de méditation.
Je trouve, même autour de moi, hein, des personnes que je considère comme des intellectuels, des personnes qui réfléchissent, qui ont une somme de connaissances qui leur permettent aussi de mener une pensée à bien. La place, justement, à cet arrêt est de moins en moins importante, même chez des gens qui ont l'habitude de réfléchir et de penser.
Et c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est que on n'autorise plus les gens à avoir ce temps libre,
c'est
cette
ça.
Pensée, ce cerveau disponible. C'est quand même extraordinaire, cette intention derrière ces projets de société capitaliste qui sont de ne pas laisser pas de vacances.
Voilà, de vacances.
Ce qui, effectivement, empêche la progression de la pensée, le développement de l'imaginaire. Enfin, je pense qu'on perd tellement quoi, à cette injonction permanente d'être l'esprit occupé. On occupe l'esprit, on le fait même pas travailler, on l'occupe.
On l'occupe. Comme on occupe l'espace, on occupe l'esprit.
Aussi, ouais, c'est vrai.
C'est ça.
Ouais. Et étonnamment, on est très demandeur de ça. Enfin, je sais pas, on doit avoir le cerveau un peu bizarrement foutu, mais on a peur de ce vide, en fait.
Parce que je pense que ça fonctionne comme une addiction.
Oui, sûrement. Ah oui, ça ressemble fortement. La preuve, c'est que, oui, en fait, il n'y a pas d'espace possible si on a un smartphone dans les mains.
Et tu parlais tout à l'heure de méditation, et c'est vrai que quand tu vas, toi, à la recherche de cet état de vacances et que tu commences à découvrir l'état méditatif, tu ressens toute cette jouissance. C'est pas de la jouissance, c'est du bonheur. Toute cette dimension de bonheur supplémentaire que tu t'accordes à toi-même et que personne ne peut t'empêcher de t'accorder. Et quand tu découvres ça, c'est tout un univers qui s'ouvre. Il le décrit très bien, ce moment-là.
Et l'intérêt, c'est de pouvoir, à un moment donné, prendre conscience du bonheur que c'est. Le mot bonheur, je trouve qu'il est bien trouvé parce qu'il est très personnel, il est individuel, il n'est pas situé au même endroit pour tout le monde. Juste le temps de prendre un moment pour s'arrêter. Donc,
c'est joyeux.
Voilà. Parce que dedans, tu vas y mettre quelque chose totalement inattendu, comme il dit aussi très bien, tu ne sais pas ce qui va advenir, où va aller travailler ou voyager ton cerveau au moment où tu lui dis « bon allez stop, là tu laisses tout le reste se couper, toutes les sollicitations, tout l'immédiat, tout l'entourage, hein, pratiquement juste pour... Mais chacun va y trouver des choses totalement...
Et son propre univers.
Différentes, et qui sont très très porteuses, je pense, de bonheur, ouais.
C'est absolument passionnant. Je pense que moi, ce livre, je vais aller le commander et je vais lire le suivant. Tu m'as dit qu'il s'appelait Paradigme, qui est passionnant, tout aussi passionnant.
Ouais.
Malheureusement, l'émission ne dure qu'un temps. Donc, tu vas nous lire la fin.
Les deux dernières esquisses.
D'accord.
Tant pis, hein, voilà, comme tu dis, si on veut savoir comment on aboutit à tout ça, il faut lire le
livre. Il faut lire
parce
le livre.
C'est absolument passionnant aussi. Alors, esquisse 49. De cette connaissance découle aussi l'idée positive de la liberté qui a manqué jusqu'ici. La liberté positive, c'est l'acte nécessaire qui est tel parce qu'il résulte d'un processus d'intégration qui est né au sein de l'activité de la personne. C'est aussi l'acte nécessaire accompli par plusieurs. C'est dans la durée l'action nécessaire. C'est aussi la conscience de posséder la puissance d'agir dont surgira, quand il le faudra, l'acte nécessaire. Cette liberté n'est pas le contraire de la servitude, mais de l'impuissance. Chacun sait qu'il vit dans la non-liberté quand un acte nécessaire naît en lui et qu'il ne peut pas l'accomplir, que ce soit par un empêchement intérieur ou extérieur. des sociétés entières vivent dans la non-liberté, par incapacité propre ou sous l'effet d'une contrainte extérieure. Quand aucun des actes nécessaires qui naissent en elles ne peut aboutir, elles vivent dans le malaise, le mépris d'elles-mêmes et la récrimination perpétuelle. Dans son principe, la démocratie est le régime dans lequel les citoyens exercent le pouvoir. La démocratie moderne leur garantit leur liberté individuelle. Aujourd'hui, une démocratie approfondie doit en outre leur permettre de surmonter leur impuissance et d'agir selon la nécessité. C'est en agissant ainsi qu'ils connaîtront le sentiment de liberté, qui ne trompe pas et qu'ils seront en effet des sujets libres. Il le faut aujourd'hui pour parer à la catastrophe qui est sur le point de nous emporter. Il le faudra à l'avenir si nous nous en tirons et que l'histoire continue, car toutes les sociétés sont exposées au hasard, à l'usure, à l'impéritie, à l'aveuglement, à la tentation de la violence. Elles seront toujours habitées par les deux humeurs dont a parlé Machiavel, le désir des uns de dominer et le refus des autres de se laisser dominer. Il faudra toujours faire preuve de « virtu », disait-il, c'est-à-dire savoir agir quand la fortuna en fournit l'occasion, car elle broie ceux qui laissent passer le moment. La véritable action politique, qu'elle soit individuelle ou collective, obéit à la loi du fini. Les citoyens prennent des décisions et accomplissent des actes finis qui s'inscrivent dans l'histoire. Il n'y a d'histoire digne d'attention que celle des peuples libres, disait Champfort. Ils ont une histoire parce qu'ils la font. Dernière esquisse, esquisse 50. Un hasard a créé la vie sur la planète Terre. Elle s'est développée. Elle a produit notre espèce qui a prospéré parce que les conditions étaient favorables. Ces conditions ont varié, parfois dangereusement. Depuis peu, elles sont gravement perturbées par notre action et risquent de disparaître. Nous devrions changer de comportement, mais nous peinons à le faire. Quand nous y serons contraints, il sera trop tard. Nous agirions de façon plus sage si nous avions une vision claire de notre aventure depuis son début. Lucrèce nous en fournit un exemple dans « De la nature des choses ». Ce grand poème philosophique est un tableau précis et lucide de la réalité tout entière. Lucrèce y montre que le hasard est le maître de tout, même des lois qui régissent les phénomènes. Il nous guérit de nos illusions et de nos peurs et nous révèle en même temps le monde dans son aveuglante et impitoyable beauté. C'est une pareille vision qu'il nous faut dans le péril où nous sommes. Il nous faut aussi une vision lucide, précise et complète de l'histoire depuis l'invention du langage. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui est arrivé à notre espèce sans concevoir exactement en quoi consiste le langage humain. C'est pourquoi je lui ai consacré une douzaine d'esquisses. Et indiquer ensuite comment les aptitudes acquises dans son maniement nous ont engagés dans une aventure dont le déroulement mène jusqu'au présent. En un petit nombre de siècles, nous avons développé des systèmes de plus en plus complexes qui nous ont imposé leur logique de façon de plus en plus contraignante. Dans un passé tout récent, s'est formé un système différent de tous les précédents. Il a déclenché une réaction en chaîne qui s'est étendue au monde entier et n'a pas encore été maîtrisée. Cette deuxième vision importe autant que la première. Nous serions réduits à l'impuissance si nous n'en ajoutions pas une troisième, notre vision du sujet. Nous en avons acquis une connaissance double, du sujet en tant qu'être de langage et du sujet en tant qu'activité, susceptible de se connaître elle-même indépendamment du langage. Cette connaissance ne nous rendra pas meilleurs, mais peut nous aider à nous faire une juste idée de ce que nous sommes, de notre besoin essentiel et de nos ressources. Elle nous instruira sur le langage qui fait le génie de l'homme, mais aussi son malheur quand il n'y prend garde. C'est une connaissance que chacun peut vérifier par lui-même et qui est rigoureusement universelle. Elle constitue à mes yeux l'approfondissement qu'appelaient les Lumières. Elle nous permettra peut-être de mettre fin aux grands dysfonctionnements actuels et débaucher une civilisation. Nous sortirions de la crise par le haut, in extremis.
Wow.
Quand même.
Ouais, ça devrait être obligatoire de le lire à l'école.
Oui, ça, c'est à la fois de l'économie, de la philo, de la sociologie, de la psychologie. Il y a tout dedans, en fait. J'aime beaucoup, moi, ces approches qui ne sont pas exclusives d'autres manières de regarder le monde.
Le mois dernier, j'ai reçu Henri Cellier qui nous a lu des passages d'un bouquin qui a été écrit par plusieurs sociologues sur le mouvement des Gilets jaunes et l'observation de ce système. C'est comme si ça avait été un essai, les Gilets jaunes, de ce que nous raconte Jean-François Billetter dans ses esquisses. Cette espèce de conquête d'une nouvelle liberté, d'une nouvelle forme.
Ouais, d'organisation, de pensée, hors de toute norme, en tout cas habituelle.
Qui s'est confronté justement à cette norme et à ce pouvoir libéral, à ce capitalisme qui, pour l'instant, est indétrônable et qui a essayé de survivre en utilisant les mêmes armes et qui, donc, a disparu.
C'est toute la difficulté de tous ces mouvements qui peuvent avoir des idées. Enfin, c'est un bouillonnement d'imagination. Enfin, je pense que c'est là-dedans qu'on pourrait trouver des éléments de solution, en tout cas de changement de paradigme. Et on a beaucoup de mal à ce que ça gagne d'autres éléments de la société, d'autres organisations même. La proposition que nous fait là Jean-François Billetter, c'est un petit peu dans ce sens de dire, mais en fait, il faut aller chercher soi-même déjà, en soi, chacun individuellement, comment on peut se recaler par rapport à notre puissance et d'arrêter de penser aussi qu'on est impuissant, parce que c'est aussi une des forces des Gilets jaunes, c'est de s'être senti puissant en fait. Mais c'est vrai que il faut que chaque personne soit au clair avec ça, c'est-à-dire que très vite on peut retrouver dans des collectifs voilà ce qu'ils dénoncent assez rapidement, l'histoire de dominé, de dominant, quoi. C'est malheureusement partout, il y a quelque chose où il faut se faire vraiment une conscientisation positive du truc.
C'était extrêmement intéressant. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir cet auteur. Je répète, c'est Jean-François Billetter. Le livre s'appelle Esquisse et donc il en a écrit d'autres. Effectivement, c'est un petit livre, mais il est très dense, très très dense et très intéressant et clair.
Voilà, merci.
Merci infiniment. Reviens quand tu as envie. Chers auditeurs, chères auditrices, merci. Rendez-vous au mois prochain. Et le mois prochain, eh bien, ce sera un homme qui sera derrière ce micro, un autre homme de radio. Je vous laisse la surprise. C'est un grand voyageur qui revient bientôt dans nos pénates. Et je vous retrouve avec plaisir dans un mois. Ciao, ciao.
Ça y est, tu es au fond du trou. Tu as tout fait, étouffé. Pour être à bout, alors attends, continue d'attendre jusqu'à ce que Dame la mort vienne te prendre. Et par définition, quand tu touches le fond, tu peux toujours espérer un putain de rebond. Alors attends, continue d'attendre. Et si tu changes d'avis, tu pourras toujours te pendre. C'est le doigt des baby, c'est pas moi qui le dis. Tu as juste à choisir la vie. L'ennui, sinon attends, continue d'attendre jusqu'à ce que Dame la mort vienne te prendre. Et réveille-toi et fais face, personne jamais ne le fera à ta place. Alors attends, continue d'attendre. Et si tu changes d'avis, tu pourras toujours te pendre. Ce qui t'attend, c'est les regrets. Ce qui t'attend, c'est les remords. Le sentiment d'avoir loupé et la mutilation de ton corps. Alors attends, continue d'attendre jusqu'à ce que Dame la mort vienne te prendre. Et c'est le choix de la vie, le choix de la mort. Attendre que ça passe ou prendre le temps par la gorge. Alors attends, continue d'attendre. Et si tu changes d'avis, tu pourras toujours te pendre. Et moi j'ai choisi, baby.